en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakiza avec vous, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition spéciale du 4 novembre 2020 sur les élections américaines. Les Américains se sont réveillés aujourd'hui sans savoir le nom de leur prochain président. Le dépouillement se poursuit au compte-goutte dans 7 États qui seront déterminants. Un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. Les deux candidats se sont exprimés brièvement pendant la nuit. 160 millions d'Américains ont voté, une participation record. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition spéciale sur les élections américaines. Les Américains se sont exprimés hier, mais le nom du futur président reste inconnu. Le décompte continue dans plusieurs États. Bagasikura dresse le tableau des résultats provisoires.
Les résultats partiels montrent que le président Donald Trump n'a pas subi la répudiation électorale annoncée par de nombreux sondages. Les premiers résultats compilés par la Voix de l'Amérique montrent que les deux candidats sont au coude à coude avec 224 grands électeurs pour Biden et 213 pour le président Donald Trump ce midi. Le décompte se poursuit dans plusieurs États, dont la Pennsylvanie, qui va prendre plus de temps. Le président américain Donald Trump a revendiqué ce matin avoir gagné la présidentielle face à son rival démocrate Joe Biden. « Honnêtement, nous avons gagné l'élection », a déclaré M. Trump lors d'une brève allocution à la Maison-Blanche, évoquant une fraude et une honte et assurant qu'il entendait saisir la Cour suprême. Son rival Joe Biden a aussitôt réagi vivement. Il s'est lui montré confiant lors d'un discours en personne dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. « Gardez la foi, nous allons gagner », a lancé l'ex-bras droit de Barack Obama sous les klaxons enthousiastes de ses partisans réunis en drive-in peu après 0h30 du matin. « Nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection », a-t-il déclaré en appelant ses partisans à la patience. Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. Ce mercredi, dans la matinée, le président sortant avec 213 grands électeurs est au coude à coude avec le démocrate 224 grands électeurs. Selon un décompte de la VOA, jamais autant d'Américains n'avaient participé à une élection présidentielle. 160 millions d'électeurs ont voté, soit une participation estimée à 66,9% contre 59,2% en 2016, selon le US Elections Project. Plus encore qu'en 2008, quand Barack Obama avait été élu. Nombre d'États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance à cause de la crise sanitaire. Ouvrir les enveloppes et scanner ces bulletins pourrait, dans certaines villes, prendre plusieurs jours. Et si la justice s'en mêlait, comme en 2000, cela pourrait durer des semaines, a dit mercredi Ed Foley, spécialiste du droit électoral à l'Ohio State University.
Dans le Michigan, c'est le spectre de longues journées d'attente. Idriss Fall a joint Suleiman Béchir Diane de l'Université de Columbia.
Le Michigan, en la matière, ressemble à d'autres États parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu quand même un record absolu dans le nombre de votes par correspondance. Les votes qui ont été envoyés par la poste, les votes qui ont été également déposés dans certaines boîtes prévues à cet effet. Et le Michigan a reçu sa part de ces votes-là. Par conséquent, cela prend du temps de les décompter. Il est possible qu'au terme de la journée aujourd'hui, on puisse avancer des résultats. Il avait été annoncé d'abord qu'il fallait attendre jusqu'à vendredi. Mais il faut bien voir que le vote dans les conditions actuelles de pandémie a été un vote historique. Les records ont été battus, mais également les records de vote par correspondance. Et cela devient très difficile pour les États de les compter. Et le Michigan se trouve dans cette situation.
Et vous pensez que ça prendra encore combien de temps?
Il est possible qu'au terme de la journée, on puisse avoir des indications relativement précises. Je crois que le gouvernement du Michigan fait tout son possible pour accélérer les choses. Espérons qu'au terme de la journée de ce mercredi, on puisse avoir une idée précise du résultat.
Pourquoi le Michigan est-il un État pivot ou un État déterminant?
Alors, l'État du Michigan est déterminant, évidemment, parce qu'il fait partie des États bascules, comme on les appelle, qui peuvent décider du vote. On est à peu près certain que certains États restent ancrés pour les républicains, d'autres pour le Parti démocratique. Et il y a des États pivots, dont le Michigan. Le Michigan est un des importants États pivots, étant donné son choix électoral en matière de grands électeurs. Il indique un peu ce à quoi va ressembler le Midwest. Il est probable que la direction prise par le Michigan soit également la direction prise par le Wisconsin. Bon, il n'y a pas de certitude en la matière, mais cela fait l'importance de cet État. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pendant les derniers jours de la campagne, comme on l'a vu, les deux candidats ont visité encore et encore le Michigan.
Modibo Dambélé a joué dans le Texas. Aristide Sidibé, journaliste et analyste politique.
Les États dont nous attendons les résultats sont des États qui n'ont pas d'expérience dans le vote par mail. Par exemple, si je prends le cas de l'État de Pennsylvania, Wisconsin et Michigan, ils ont des lois qui disent que le processus de tabulation des résultats des votes qui se sont faits par mail doit commencer après la fermeture du bureau de vote qui était hier soir à 18h. Alors que dans d'autres États, ils commencent à compter ces bulletins de vote au moment où ils les reçoivent. Donc c'est ce qui explique le retard dans la publication des résultats officiels.
Quelle est votre réaction par rapport aux propos qui ont été tenus par les deux candidats, à savoir Donald Trump et Joe Biden, hier nuit?
D'abord, ils ont télégraphé leurs propos. Le président Trump, il dit ce qu'il a dit hier soir. Joe Biden aussi, à la direction de campagne, avait dit qu'il allait s'adresser à la nation pour dire ce qu'il pense. Je pense que tant que les résultats officiels ne sont pas connus, bon, c'est des candidats, hein, donc ils vont dire ce qu'ils ont à dire par rapport à leurs supporters. Mais tout compte fait, la loi est claire. Tous les bulletins de vont être comptés. Mais maintenant, s'il y a des procédures judiciaires qui vont être enclenchées, on verra bien.
En quoi l'élection de cette année 2020 diffère-t-elle des autres années précédentes?
Il y a principalement deux ou trois raisons. La première, c'est que COVID-19 a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Il y a eu un peu plus de 100 millions d'Américains qui ont voté avant le jour du vote. En plus de cela, le vote par mail n'était pas quelque chose dans tous les États. Donc, il y a beaucoup d'États qui n'avaient pas d'expérience dans ça, ce qui fait qu'on est dans cette situation. Mais en réalité, si vous regardez l'histoire des États-Unis, dans les 50 dernières années, il y a 4 instances où les Américains sont partis se coucher sans connaître le président. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'Amérique.
Est-ce que vous pensez que ça va traîner encore avant de savoir les résultats?
Tout va dépendre de trois États, Michigan, Wisconsin et Pennsylvania. Il y a beaucoup de votes qui sont faits par mail. Il y a d'aucuns qui parlent qu'on peut aller jusqu'à vendredi, c'est possible. Maintenant, l'inquiétude pour beaucoup d'observateurs, comme le président Trump l'a dit, il a beaucoup d'avocats qui sont sur le terrain. Peut-être qu'ils vont faire des réclamations à travers les tribunaux américains. Bon, c'est peut-être ça qui va peut-être mettre un peu les bâtons dans les roues. Et ce qui fait rappeler un peu ce qui s'est passé en 2000 en Floride. Donc, on n'espère pas que ça arrive à ça, mais il y a un potentiel que ça se fait.
Aristide Sidibé, journaliste et analyste politique en ligne depuis la Virginie. L'analyste Emilio Viano, professeur à American University à Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
Des opérations de dépouillement sont également en cours dans des États du Nevada, Géorgie, Caroline du Nord et de l'Arizona, le Michigan également. Est-ce que vous vous attendiez à la tournure de la situation telle qu'elle se présente actuellement?
On espérait une victoire plus grande de Biden. C'est très intéressant de voir que Trump et Biden sont presque proches l'un à l'autre dans le pourcentage de voix de votants. On pensait que, ça, que naturellement, ceux qui soutiennent Trump pensaient le même pour lui. C'est-à-dire qu'il démontre une division très profonde aux États-Unis. Et c'est vraiment étonnant de voir comme il y a cette 40% d'un côté, 40% de l'autre côté, ou 50-50, comme vous voulez. C'est-à-dire que cette élection n'est pas si puissante dans une direction ou l'autre. Par exemple, on pensait que les démocrates pourrait conquérir le Sénat, par exemple, tenir la majorité dans le Sénat, ils n'auront pas la majorité. Ça que ça va poser des problèmes très grands, particulièrement s'il y a un président comme Biden, démocrate, qui doit travailler avec eux. Mais il a beaucoup d'expérience dans ça, parce qu'il a été sénateur avec ce type de congrès pendant plusieurs années. De l'autre côté, même dans la Chambre des représentants, les députés ont pensé qu'il y aurait une majorité plus grande pour les démocrates. Au contraire, ils ont perdu bastant de sièges. Ainsi qu'il n'a pas été comme on pensait d'un côté ou de l'autre. Il a révélé cette division très profonde et presque 50-50 dans le pays.
Comme vous le dites, les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, mais non pas avec une majorité de la Chambre sortante. On ignore encore si le Sénat resterait aux mains des républicains. Quoi qu'il arrive, le prochain président devra composer avec le Congrès.
Oui, c'est ça. On ne sait pas encore, naturellement, le résultat définitif, mais il semble que le rêve des démocrates d'obtenir la majorité dans le Sénat ne va pas passer. Ils ont perdu des sièges. Naturellement, ils ont aussi acquis des sièges pour la Chambre des députés, mais ils n'ont pas obtenu, il semble, la supermajorité qu'ils pensaient serait possible pour eux. Et ça, c'est très intéressant aussi du point de vue du conduit de la campagne, où ils ont dépensé des millions de dollars et ont fait des erreurs, clairement. Et aussi les sondages qui semblent sont encore une science, c'est une science pas très exacte. Et comme on a vu naturellement très dramatiquement en 2016, quand Hillary Clinton pensait d'être naturellement très facilement la nouvelle présidente des États-Unis. Et quand se refère à travailler de la part du président, par exemple Biden, avec un Sénat dans les mains des républicains, on peut penser que Biden, il est peut-être le meilleur, dans le sens qu'il a beaucoup d'expérience. Vraiment, il était un sénateur qui travaillait avec l'autre côté, comme il l'appelle, c'est-à-dire un démocrate qui se relationne bien à des sénateurs républicains et qui peut travailler et obtenir des lois et des projets et des apportionnements d'argent avec eux. Alors, je crois que ça serait au moins une situation où il doit prouver une autre fois qu'il est vraiment un président, qu'ils peuvent obtenir des résultats.
Et si c'est le président Trump qui est réélu, parce que tout n'est pas encore fini?
Non, il n'est pas encore fini. Si Trump est réélu, on voit déjà comme les républicains, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas se distancer de lui. Et ça serait très, très, très négatif pour le pays, parce qu'il aurait une
paralysie. Mais c'est le message des électeurs.
C'est dans le Congrès.
Mais c'est le message des électeurs. Il a quand même amélioré son score national.
Oui, c'est ça. Mais enfin, ce n'est pas question de pourcentage. C'est question de faire quelque chose, d'aider les Américains, de travailler sur l'infrastructure, de la compétition avec la Chine, des possibilités de guerre, des pauvres, le programme de santé universel. C'est-à-dire qu'on a besoin des résultats. Et c'est ça qui il est vraiment, je pense, à la racine de cette division, parce qu'il y a beaucoup de mécontents dans la population de ce pays, de deux côtés. Parce qu'il voit la paralysie de Washington. Et c'est ça qui a porté Trump à la présidence. Parce qu'il a utilisé beaucoup ce thème dans sa campagne en 2016, en disant que Washington ne fonctionnait pas, qu'il serait la personne qui vient ici à faire un nettoyage général de la ville et des politiciens, etc. Je pense que c'est ça le problème plus grand que nous avons et qui peut vraiment impacter négativement le futur de ce pays, la paralysie de Washington.
Quelles ont été les grandes surprises selon vous?
Par exemple, que Arizona semble avoir voté par Biden, par exemple que de certains États qu'on pensait pourraient revenir aux démocrates comme Michigan, Wisconsin. Il semble qu'ils sont dans le chemin de revenir aux démocrates et même peut-être Pennsylvanie, peut-être il semble qu'elle est dans le champ de Trump, mais on verra. Il y a des surprises dans ce sens, qu'il y avait ce désir des démocrates de reconstruire sa majorité dans les États du Midwest et qu'il ne s'est pas vraiment passé complètement comme il voulait. Mais il semble que Michigan, Wisconsin vont revenir aux démocrates. Il n'est pas surprenant que la Floride sera dans la main de Trump pour plein de raisons de la population, de l'âge de la population, de l'immigration de Cuba qui a de l'influence sur sa perception de ce que les États-Unis devraient faire dans cette région, etc.
Rien n'est encore joué. Il faut attendre le décompte définitif des résultats partiels. Merci beaucoup, professeur Emilio Viano.
C'est toujours un plaisir. Merci.
L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice mercredi pour suspendre le dépouillement dans l'État clé du Michigan, où le président est devancé d'une courte tête par Joe Biden, selon des résultats qui sont projetés. Son directeur de campagne, Bill Stepien, a assuré dans un communiqué que ses équipes n'avaient pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins de vote, contrairement à ce que prévoit la loi du Michigan. Nous avons déposé plainte aujourd'hui devant un tribunal de l'État pour obtenir la suspension de ces opérations en attendant que cet accès soit restauré. L'équipe a ajouté avoir exigé un réexamen des bulletins déjà recensés, a-t-il ajouté.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans tout le pays, le vote s'est déroulé sans incident majeur, comme cela a été craint depuis plusieurs jours. Les commerces de plusieurs grandes villes s'étaient barricadés en prévision de possibles violences. Dilly Dico s'est rendu dans le centre-ville de New York.
Ici à New York, le candidat démocrate Joe Biden a remporté les 29 votes électoraux de l'État avec au moins 58% des voix contre 40 pour le président Donald Trump. La victoire de Biden était prévisible car New York est un État dominé par les démocrates qui sont principalement concentrés autour de grandes agglomérations comme Albany, Rochester, Syracuse et la ville de New York. Au lendemain de l'élection présidentielle, l'ambiance à New York est calme. Les habitants, armés de patience, attendent les résultats à l'échelle nationale pour savoir qui de Trump ou de Biden sera le nouveau président des États-Unis. Cette élection présidentielle marque la toute première fois que l'État de New York met en place le vote anticipé, ce qui en fait l'un des derniers États à opter pour ce système. Pour les responsables électoraux de New York, le défi était d'améliorer la faible performance de l'État lors du dépouillement et de la distribution des bulletins de vote par correspondance pendant la primaire. Et à New York, des sièges de la Chambre des représentants sont également en jeu cette année. Les résultats définitifs des législatives ne sont pas encore disponibles, mais les observateurs font remarquer que cette course devrait être représentative de l'élection présidentielle, avec des démocrates tentant de remporter certains bastions républicains. En attendant donc que tous les votes soient comptabilisés et que tous les bulletins par correspondance soient dépouillés, les New-Yorkais, comme tous les autres Américains, attendent les résultats de la présidentielle qui, dit-on, pourrait tomber jeudi, voire vendredi.
Les partis républicains et démocrates ont déployé leurs équipes de militants respectives pour inciter les électeurs dormants ou indécis à faire pencher la balance du côté de leur candidat. Pour avoir une idée du travail accumulé par ces militants actifs, Nathalie Barge, adjointe ici à Washington, Khadidia Viviane Doumbia, américaine d'origine ivoirienne, membre de l'Alliance des femmes pour la démocratie et la justice.
C'est le rôle de tout membre actif de tout parti, c'est-à-dire que téléphoner pour encourager les électeurs et ceux qu'on appelle des électeurs dormants qui ne votent pas souvent à y aller, beaucoup de texting parce que on peut le faire à n'importe quelle heure, encourager les personnes autour de nous que nous connaissons à aller voter également.
on a eu une très forte participation, hein, avec 160 millions de personnes qui ont voté. Ça représente à peu près 67%. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est dû au bulletin par correspondance, donc le vote par anticipation? Est-ce que c'est dû à la situation? Comment vous l'expliquez, cette forte progression de la participation à cette élection?
Alors, je pense qu'il y a surtout l'enjeu des deux côtés. L'enjeu du côté du Parti démocratique, c'est de faire partir Trump. Les propos tenus par Trump ont exacerbé l'ancien sentiment qu'on pensait avoir disparu dans le pays. Et le fait que le vote soit serré nous interpelle également.
Est-ce que vous avez pu noter une progression des femmes qui ont voté?
Oui, les femmes noires ont beaucoup voté. Néanmoins, les plus jeunes, nous n'en sommes pas si sûrs parce qu'elles n'étaient pas claires sur la personne pour laquelle voter. Le problème du vote noir, c'est qu'on pense qu'il doit aller directement au Parti démocratique et on fait la cour au vote noir toujours lorsqu'il y a des élections. Donc, quelque que soit le parti, je pense que c'est une erreur qu'il faudra corriger. Les femmes blanches ont beaucoup voté pour Biden. Il a eu quand même une bonne partie du vote noir, surtout des femmes.
Khadidia Viviane Doumbia, membre de l'Alliance des femmes pour la démocratie et la justice à Washington, D.C. À Arlington, en Virginie, Arzuma Compaoré s'est entretenue avec Mamadou Baldé, d'origine guinéenne.
Personnellement, j'ai voté pour Joe Biden. Je pense que pendant ces 4 ans-là, moi, j'ai fini le collège en 2016. Donc, depuis que j'ai fini, j'ai vu le régime qui est en place, ce qui se passe. Et surtout, l'image des États-Unis en dehors de ce pays, c'est terrible quand même. Donc, je me dis, mon candidat, ce qu'il doit faire, un, c'est de faire en sorte que les États-Unis soient un pays qui reconnaisse la culture des gens, surtout en tant qu'immigrant dans ce pays. L'image des immigrants a complètement changé depuis que le président qui est en place. Donc j'attends que ça change. Aujourd'hui, je suis venu avec ma maman qui est là, elle aussi, elle est américaine. Elle est ma joie de vivre, c'est elle qui m'a envoyé aux États-Unis et pour elle, je ferai tout. Et être là avec elle pour voter, c'est vraiment pour dire aux gens que le monde est devenu global et que partout où vous allez, il faudra que vous faites votre voix, il faut que les gens entendent ce que vous pensez, vos idées et tout. Donc, pour nous, venir voter, c'est d'exprimer notre opinion sur ce qui se passe où nous vivons.
I like John Biden. Thank you, John Biden. Good luck, John Biden.
La communauté gabonaise de Washington, D.C. est très partagée dans ces élections. Nathalie Barge a recueilli la réaction de la secrétaire générale de l'association gabonaise Community USA, Judith Omanda.
On en discute beaucoup parce que c'est une élection qui nous affecte directement en tant que communauté résidant ici aux USA, sur le plan de l'immigration, sur le plan économique, sur l'aspect social, parce que en tant que Gabonais, nous faisons partie des minorités, des Noirs. Donc c'est un débat assez intéressant, parce que les avis sont très partagés, beaucoup penchent pour un côté républicain, beaucoup pensent aussi pour un côté démocrate. Donc c'est assez intéressant.
Est-ce que vous arrivez à en discuter calmement?
On arrive à discuter sans se frustrer et pouvoir partager des avis différents parce que chaque candidat a un projet qui est différent de l'autre et qui nous affecte différemment sur le plan des taxes, par exemple, sur le plan de la résidence américaine, pour la citoyenneté aussi, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été faites par le président actuel et qui ont réellement affecté notre communauté. Les raisons qui font que l'un ou l'autre adhère à tel ou tel parti sont vraiment différentes. Beaucoup sont plus penchés vers le parti républicain pour des raisons économiques, pour des raisons financières. Beaucoup aussi sont dans l'entrepreneuriat ou aspirent à devenir entrepreneurs. Donc, avec les informations que l'on reçoit par rapport aux aides sociales offertes par le gouvernement pour aider les petites compagnies, les petites et moyennes entreprises, donc beaucoup penchent de ce côté-là. C'est assez diversifié, j'avoue.
Nous nous dirigeons directement vers le Gabon. Notre correspondant sur place, Ismaël Lobiangze, a rencontré certains habitants de Libreville qui ont suivi le processus électoral américain. Son reportage.
Le déroulement de la présidentielle américaine est surtout scruté de près dans les milieux intellectuels gabonais. Georges Moussavou est sociologue des organisations internationales et des institutions publiques.
La présidentielle aux États-Unis, déjà c'est quelque chose que je suis habituellement depuis ces dernières années et qui, moi, me donne à l'esprit, me montre combien de fois les citoyens américains sont engagés politiquement et comment, de façon globale, les Américains se défendent par rapport à la question de la gouvernance de leur pays, par rapport à la qualité des élites qui doivent diriger le pays.
Marie-Salomé Mengeondo est technicienne de recherche à l'université Omar Bongo. Son point de vue tranche plutôt avec le processus électoral américain.
Aucun intérêt pour moi. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? En fait, ils ne s'occupent même pas des Noirs qui sont chez eux. C'est à nous qu'ils vont penser.
Pour le politologue André Adjo, l'Afrique doit tirer le meilleur parti d'une telle expérience démocratique.
L'Afrique doit, me semble-t-il, développer une grille d'analyse autonome. Qu'est-ce qu'elle gagne par rapport à des alternances qu'il pourrait avoir en Amérique, par exemple? Qu'est-ce qu'elle perd et quels sont les domaines qu'elle doit absolument investir, s'autonomiser pour conforter ou du moins gagner son indépendance pour un continent qui est particulièrement fragile, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions économiques.
En suivant la présidentielle aux États-Unis, le sociologue Georges Moussavou rêve d'une Afrique qui prenne son destin en main.
Je suis de ceux qui pensent que les Gabonais en particulier et les Africains de façon générale doivent d'abord penser eux-mêmes leur propre développement. S'ils veulent se développer, ils doivent penser le développement d'abord par rapport à eux. D'abord, c'est fondamental, mais aussi et surtout par rapport aux autres. Par rapport aux autres dans cette question du rapport de force.
La présidentielle américaine doit départager républicains et démocrates. Le monde entier retient son souffle pour ce scrutin à l'issue incertaine. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
Merci Ismaël pour ce reportage. On attend toujours de savoir le vainqueur de la présidentielle américaine entre le président Trump et son rival démocrate Joe Biden. Les opérations de dépouillement se poursuivent dans certains États pivots. Je rappelle que l'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice aujourd'hui pour suspendre le dépouillement dans l'État clé du Michigan, où le président est devancé d'une courte tête par Joe Biden, selon des résultats qui sont projetés. Son directeur de campagne, Bill Stepien, a assuré dans un communiqué que ses équipes n'avaient pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins de vote, contrairement à ce que prévoit la loi du Michigan. Nous avons déposé plainte aujourd'hui devant un tribunal de l'État pour obtenir la suspension de ces opérations. En attendant que cet accès soit restauré, l'équipe a ajouté avoir exigé un réexamen des bulletins déjà recensés, a ajouté le directeur de campagne du président Donald Trump. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Firmin Koyaweda, Eric Manirakiza était avec vous à la présentation. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.